femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante.
Remue-ménage.
Und femme. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonjour et bienvenue dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8 et c'est Remue Ménage, 17h-18h30, en direct comme tous les mercredis de nos studios de Ferney, où vous pouvez nous appeler, nous vous le rappelons, en faisant tout simplement le 50 40 51 41, je répète 50 40 51 41, 059 si vous appelez depuis la Genève voisine. Et n'hésitez pas aussi à nous manifester à la veille de ces vacances avant de vous offrir 2 mois de bien-être au soleil. Eh bien, rappelez-vous que notre radio a besoin de votre soutien, ces temps, la presse, les médias qui se chargent de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas sont dans un moment difficile. Il y en a d'autres que nous qui sont plus instable en ce moment, mais en l'occurrence, eh bien, vous pouvez aussi manifester votre soutien à Radio Zone en nous achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 100 francs français ou 30 francs suisses, tout simplement en nous appelant ce même numéro et en demandant une carte d'auditrice ou d'auditeur, en vous donnant votre adresse et vous la recevez et vous nous envoyez votre balle. Voilà. Pour aujourd'hui dans Remue Ménage, eh bien, Viviane Gonick et moi-même allons vous parler, c'est surtout beaucoup Viviane qui va vous amener toutes les richesses des informations qu'elle a trouvées et qu'elle a recherchées par une longue étude qu'elle mène sur la nouvelle loi sur le travail, Viviane.
Enfin, ce n'est pas tout à fait la nouvelle loi sur le travail, c'est la loi sur l'égalité entre hommes et femmes qui va entrer en vigueur à partir de juillet. Donc c'est tout bientôt, cette loi qui est finalement le résultat de l'application de l'article constitutionnel qui mettait, donc qui inscrivait dans la Constitution l'égalité entre hommes et femmes. Cette fois-ci, c'est un pas en plus vers une égalité dans le monde du travail, c'est inscrire plus formellement cette égalité donc entre hommes et femmes dans le monde du travail. Alors cette loi donc va entrer en vigueur en juillet cette année maintenant, dans quelques jours. Alors la loi d'application cantonale n'est pas encore prête, mais on espère qu'elle va être très très vite prête parce que on pense que de nombreux cas pourraient arriver sur les tribunaux. Alors cette nouvelle loi sur l'égalité, elle institue donc l'interdiction de toute discrimination entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire à la fois dans la formation, essayer de pousser qu'il n'y ait pas de discrimination au niveau des formations professionnelles. Ça signifie aussi pas de discrimination à l'embauche. Que ça soit clair que hommes et femmes aient les mêmes chances à l'embauche. Et ça, on voit bien que ça pose plein de problèmes. Et puis, ça signifie surtout, et ça, c'est peut-être la chose la plus importante, non-discrimination au niveau du salaire. C'est-à-dire que hommes et femmes aient effectivement le même salaire pour un travail équivalent.
Et puis, tu disais, il risque d'y avoir beaucoup de casses aux tribunaux parce qu'il y a aussi une nouvelle chose qui est précisée, c'est cette possibilité qu'aura une femme qui se sent discriminée de se faire défendre par une association, un syndicat, c'est ça ?
C'est vrai. Non seulement elle peut se faire défendre à travers une association féminine ou un syndicat, mais l'association ou le syndicat peut se défendre, peut amener le cas au tribunal sans être nécessairement le porte-parole d'une femme. Ça peut... La discrimination, une fois qu'elle est constatée, à ce moment-là, les syndicats, les organisations des travailleurs ou les organisations de femmes peuvent se porter partie civile, donc au nom à ce moment-là de toutes les femmes qui sont dans la même situation. Donc c'est effectivement quelque chose de très fort. Et puis il y a toute une série d'autres... directives qui sont inscrites, comme par exemple l'interdiction de licencier toute femme pendant tout le long de la procédure et 6 mois après. Enfin, il y a toute une série de mesures qui sont prises dans la loi pour inciter les femmes qui, jusqu'à aujourd'hui, ont hésité. Il y a quand même eu, je crois, une vingtaine de cas depuis plus de 10 ans, puisque dans 14 ans maintenant que l'article constitutionnel est dans la loi, il y a eu environ 14 cas qui sont arrivés aux tribunaux de femmes qui se sont plaintes d'être discriminées sur le lieu de travail pour des questions de salaire. Alors, ce sont toujours des cas, des affaires qui durent pendant des années et des années. Il y a le fameux cas des infirmières à Zurich qui dure depuis 7 ans, je crois. Il y a eu le cas de maîtresse d'école et le cas aussi qui n'est toujours pas réglé des assistantes typographes dans la convention collective que le syndicat du livre et du papier a signé avec les employeurs. Il était stipulé 2 salaires différents pour assistants et assistantes. Alors il y a eu là aussi une plainte reprise par le syndicat, mais disons là, l'affaire est toujours pendante. Donc il y a eu tous ces cas, mais on pense qu'avec cette nouvelle loi on aura un instrument en plus pour faire avancer les choses, puisqu'on le sait aujourd'hui un peu plus. Il y a une étude qui a été menée à Genève, sur toute la Suisse et à Genève en particulier, sur les discriminations salariales, qui a été faite par Yves Lukiger, professeur à l'Université de Genève, qui montre que dans toute la Suisse, il y a entre 25 et 27% de différence de salaire entre hommes et femmes pour des postes en moyenne, dans l'ensemble. Et à Genève, c'est un peu moins, c'est 20% de différence. Mais là où c'est plus inquiétant, c'est que sur ces 40% de ces 20% ne sont dus qu'à la discrimination. Le reste étant dû à d'autres facteurs, formation, expérience, temps de travail, etc.
C'est-à-dire qu'on n'accepte pas le principe de l'égalité de travail. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils ne font pas la même chose.
Mais sur des choses, par exemple, on a montré qu'une année de formation universitaire vaut beaucoup plus pour un homme que pour une femme, la même année. De même, le fait d'être marié ou pas
n'a
pas le même poids. Un homme marié gagne plus, a un meilleur statut qu'une femme mariée. Les heures supplémentaires aussi n'ont pas le même poids. Donc cette discrimination, c'est vraiment sur plusieurs points qu'elle se distille. Et effectivement, c'est vraiment... La situation est assez grave, puisque ça fait quand même, à Genève, une différence de 1000 francs, c'est pas mal.
C'est une situation qui n'est pas exceptionnelle, disons, c'est difficile d'employer ce mot-là, mais la Suisse n'est pas exceptionnelle dans cette situation. Elle rejoint à peu près la situation de ses voisins, la France, l'Allemagne, par exemple. Tu sais ça, Viviane ?
Alors, effectivement, il y a des études de ce genre ont été menées ailleurs. On retrouve un peu ces mêmes différences dans nos pays voisins, avec un gradient. Ça tend à s'estomper dans les pays nordiques et à s'aggraver dans les pays plus du sud. Mais disons, cette différence reste est toujours assez forte. Ce qui est intéressant de montrer, c'est que plus on monte dans la formation, plus elle s'aggrave. C'est-à-dire que la différence est plus forte entre une femme formée et un homme formé qu'entre une femme pas formée et un homme pas formé. Donc la formation, dont on a toujours dit qu'elle devait être un instrument vers l'égalité, on voit que ce n'est pas toujours le cas.
Alors, je ne sais pas très... Est-ce qu'on pourrait prendre par un bout des choses et d'essayer d'approfondir un petit peu justement cette situation, parce que tu l'as observée très précisément toi-même par un travail de recherche.
Oui, ce que j'aimerais surtout, ce dont j'avais surtout envie de parler, c'est la question de l'évaluation de la valeur du travail. Parce que quand on parle de salaire égal pour un travail égal, ça veut dire
qu'est-ce que c'est le travail égal ?
Qu'est-ce que c'est le travail égal ? Donc il y a sous-jacente le fait que le travail a une valeur. Par ailleurs, la majorité des situations qu'on trouve dans la situation de travail, c'est très rarement des hommes et des femmes qui occupent le même travail. Ça, c'est des choses qu'on voit peut-être dans la fonction. Bon, par exemple, des professeurs, c'est clair qu'il y a des femmes professeurs et des hommes professeurs. On peut vraiment dire que c'est le même travail. Mais vous arrivez déjà, par exemple, dans le primaire, vous avez énormément de femmes maîtresse d'école, peu d'hommes. Donc en fait, les hommes sont plutôt dans d'autres domaines. Et quand vous arrivez dans les entreprises industrielles, là, c'est tout à fait ségrégué. Il y a vraiment des ateliers de femmes et des ateliers d'hommes. Les hommes et les femmes ne font rarement le même travail. Donc la question du travail salaire, travail égal est assez critique, ce qui fait qu'on a posé le concept de travail équivalent. C'est-à-dire, ce n'est pas le même travail, mais il a la même valeur. Donc là, se pose la question, mais comment est-ce qu'on évalue la valeur d'un travail ? Et aujourd'hui, cette question est vraiment d'autant plus justement brûlante que ces questions vont être posées éventuellement devant des tribunaux. Alors, il y a des instruments d'évaluation du travail, d'évaluation des postes ou d'évaluation des fonctions qui existent depuis les années 60 environ. Excuse-moi. Ces instruments, par exemple, qui sont largement utilisés dans la fonction publique à Genève, donnent une note classifie finalement les différentes fonctions et en fonction de certaines rubriques qui permettent de les hiérarchiser. Alors au moment où ce système a été introduit, c'était dans la volonté d'introduire un petit peu de transparence dans les salaires, que les gens sachent un peu pourquoi, de quoi était fait leur salaire et sachent qu'effectivement les gens à la même fonction avaient le même salaire. Mais ce n'était pas du tout un système qui était construit pour détruire le fait que l'ouvrier est moins payé que son chef. Donc la hiérarchie des salaires, elle devait être maintenue, bien sûr. Ce qui fait que l'évaluation qui a été mise en place, elle devait tenir compte de cette hiérarchisation pour la reproduire ensuite dans les points. Alors les systèmes qui sont en place, par exemple à l'État, excuse-moi, le système d'évaluation des fonctions à l'État de Genève, donc qui comprend, je crois, 32 classes, hiérarchise les postes en fonction de 4 gros paramètres qui sont la formation, l'expérience, la responsabilité et les conditions de travail, charges et conditions de travail. Donc ça, c'est les 4 items qui ensuite se décomposent en sous-items qui permettent de classifier, définir la valeur de son travail. Alors ces méthodes qu'on a essayé d'introduire aussi dans le secteur privé, en fait, elles sont très critiquables au niveau de l'égalité. Parce que de même qu'elles ont reconstruit la hiérarchie, de même elles ont reconstruit la division sexuelle. Donc en fait, elles se sont basées sur un travail masculin pour essayer d'évaluer des postes, en négligeant totalement qu'est-ce qui faisait les caractéristiques d'un travail plus féminin. Par féminin, j'entends des postes où on trouvait des femmes. Hein. Ça ne veut pas dire que le travail a un sexe en tant que tel. Par exemple, si on prend la question de la responsabilité, on prend en compte uniquement la responsabilité, ou surtout sont évaluées très fortement la responsabilité liée à l'encadrement de personnes. Vous encadrez des personnes, vous avez une responsabilité. Mais par exemple, la responsabilité d'une maîtresse d'école face à ses élèves, qui est très forte, parce que si elle fait des gaffes, ça a des conséquences lourdes, eh bien ça, c'est très peu évalué. Ou la responsabilité d'une caissière d'un magasin qui non seulement manie l'argent, mais qui doit aussi avoir des liens avec les clients, n'est pas du tout pris en compte. Donc on tient compte que d'un type de responsabilité où il y a...
Hiérarchique, en fait,
hiérarchique.
Finalement.
Mmh. Si je prends le cas de la charge de travail, par exemple, on tient compte de la... du port de charge, si c'est un travail physiquement lourd. Ça, c'est évalué. Mais on tient compte, le travail physiquement lourd, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soulever des choses lourdes. Alors déjà, il y a tout de suite une discrimination, parce que dans la loi, les femmes et les hommes ne portent pas la même chose. La loi donne des instructions sur les poids maximales que peuvent porter les unes et les autres. C'est 25 kilos pour les hommes et 15 kilos pour les femmes. C'est dû vraiment à une anatomie. Les femmes ont une masse musculaire moins forte. Et alors, du coup, le fait de valoriser le fait qu'on puisse porter des poids lourds, bien entendu, va valoriser des travaux masculins. Autre point aussi là-dessus, c'est que, d'accord, on soulève quelque chose de lourd, qui d'ailleurs n'est pas très bon aussi pour les hommes, hein, parce que les hommes se retrouvent souvent avec des problèmes de dos à 40 ans. Mais enfin, bon, ça c'est un autre discours. On évalue, on tient compte du fait qu'on soulève un poids lourd. Et on ne tient pas compte du fait qu'on puisse, au cours de la journée, porter beaucoup de choses, mais en de nombreux petits paquets. Alors, je reprends l'exemple de la caissière. La caissière, elle porte toute la journée des choses. Surtout, bon, peut-être moins avec les nouveaux systèmes de caisse, mais on voit très souvent ce système où, finalement, la caissière prend un objet et le dépose derrière dans son chariot.
Un geste, en plus, très bizarre pour le dos, dans une position bizarre. Hein.
Bon, à la fin de la journée, cette caissière, elle a porté une tonne. Donc, c'est pas un poids... disons, c'est aussi une charge physique. Et cette charge-là, alors, elle est absolument pas prise en compte. On imagine simplement qu'elle soulève des poids maximales de 2 kilos qui correspond à la grosse bouteille de thé froid, c'est tout. Mais en fait, l'accumulation de ces poids au cours de la journée n'est pas prise en compte.
Je suppose que l'aide infirmière, on ne mesure pas non plus le nombre de fois où elle soulève des patients pour faire les lits.
Tout à fait, on en tient compte pour une fois, donc on dit poids moyen, poids léger, c'est tout. Donc là aussi, c'est en fait un biais qui est introduit par la méthode qui fait que les femmes sont systématiquement sous-évaluées. Un autre point qui n'est pas pris en compte, c'est la question dans la question des conditions de travail, c'est le problème des risques. Alors, l'évaluation des fonctions actuellement paye le risque. Ce qui est aussi d'ailleurs un problème discutable.
Mais le risque dans quel sens?
Par exemple, si une personne travaille dans des conditions de travail dangereuses, elle va avoir une prime. Donc le risque est payé si vous êtes par exemple éboueur, vous travaillez à la station d'épuration d'Aïr et que vous êtes dans les bottes et vous travaillez dans la boue, ça c'est un risque, c'est une mauvaise condition de travail, ça vous est payé en plus. Si vous travaillez dans une station où il y a des risques chimiques, etc. aussi. Donc le risque est payé, ce qui, comme je dis, pose de vrais problèmes parce qu'on aimerait plutôt supprimer le risque que de le payer. Mais là aussi, on évalue que des risques bien connus, bien classiques, qui sont les risques chimiques, les risques physiques, éventuellement les différences de température, le fait de travailler dehors, etc. Et donc, on connaît bien les causes, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres risques qui sont plus diffus aussi dans leurs effets.
Il y a long terme parfois, non ? Qui manifestent plus tard ?
Bon, en général, ils se manifestent tous à long terme, mais ce sont souvent des risques qui donnent des pathologies multiples, les maux de dos, les maux de tête, ce qu'on appelle le stress en gros. Hein. Et bien, ces risques-là ne sont absolument pas évalués, alors qu'on sait justement qu'ils touchent énormément de gens et beaucoup de femmes. Puisque les conditions de travail qui sont faites aux femmes, surtout dans l'industrie, sont des conditions très stressantes, avec un rythme de travail très rapide, attaché souvent à une machine. Donc il y a toute une série de facteurs de risque qui existent, qui ne sont pas pris en compte. Donc en fait, cette méthode soi-disant objective, de fait, on voit qu'elle est très sexiste. La méthode qui existe aujourd'hui pour évaluer les fonctions.
Quand elle s'endormait, elle rêvait de moi.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, et nous évoquons aujourd'hui la prochaine mise en vigueur de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes, et surtout les conséquences dans le monde du travail. Alors, nous en étions, Viviane, à essayer de faire le tour de ces critères qui définissent, selon une échelle qui jusque-là a été adoptée, qui définissent la valeur du travail dans cette, par rapport à cette fameuse expression « à travail égal, salaire égal ». Donc, comment définir ce qu'est un travail égal ? Il y avait cette envie de ta part de clarifier ça. Mais alors, si les différents critères qui sont habituellement, jusqu'à ce jour en tout cas, utilisés pour évaluer ce type de travail-là, te semblent très sexistes, comme tu viens nous en faire la démonstration, est-ce que, par exemple, il y a des gens, que ce soit les syndicats, les associations féministes ou autres, qui essaient de proposer une autre grille d'évaluation ? Tu sais si c'est dans l'air ou comment ça va se passer ?
Oui, alors effectivement, le bureau de l'égalité à Berne a commandé une étude à deux chercheurs qui ont mis sur pied une grille d'évaluation non sexiste, enfin c'est ce qu'ils affirment, qui a un nom très sauvage, ça s'appelle Abacaba et Vivif, c'est pas Abracadabra, c'est Abacaba, alors qui tient compte donc d'autres facteurs. Alors je ne vais pas l'expliquer en détail ici, mais disons un point sur lequel ils s'appuient beaucoup, c'est qu'ils donnent un poids à ce qu'ils ont appelé la charge psychosociale. Qu'est-ce que c'est la charge psychosociale ? C'est le fait de s'occuper de gens. C'est tout ce que ça implique, la relation d'entraide et la relation de soutien ou la relation de soins. Alors, ça couvre, bon, on en a parlé, les maîtresses d'école, les infirmières, les assistantes sociales, les gens qui sont confrontés à des êtres vivants. Et pas seulement à travers un guichet comme à la poste, mais même là, ça, on devrait en tenir compte parce que c'est quand même important, mais dans d'autres relations qui peuvent justement avoir un poids. Donc, pour être, par exemple, professeur ou maîtresse d'école, il faut bien sûr avoir un savoir, une certaine connaissance, puisqu'on va transmettre des connaissances, mais pas seulement. Enfin, tu le sais sûrement bien, puisque tu pratiques la chose. La seule transmission des connaissances ne suffit pas. Il faut à la fois, à travers une pédagogie, transmettre autre chose, comprendre les élèves dans leur histoire plus longue ou dans leur histoire du moment, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, qu'est-ce qui se passe, comprendre la dynamique d'une classe, etc. Et recevoir aussi toute l'agression, toute la violence, toute l'affectivité de ces gens-là. Donc c'est tout ça qu'on appelle la charge psychosociale.
Et ça, c'est de loin pas appris à l'université. Donc.
Bon, ça, effectivement, on ne l'apprend pas. Je ne sais même pas si on sait comment l'apprendre. Par contre, on pourrait, et ça c'est un autre débat, trouver des méthodes pour alléger cette charge. Il y a un des gros problèmes, par exemple, c'est chez les gens qui travaillent avec des malades, par exemple, bon, tous les soins médicaux, paramédicaux, infirmières, etc., c'est en fait comment faire face à la souffrance de l'autre, comment faire face à la mort de l'autre. Alors ça, effectivement, on l'apprend pas à l'école. Par contre, il peut exister à l'intérieur d'une structure, d'une institution comme l'hôpital, des moyens de parler de ça, de demander conseil, de sortir cette souffrance-là, qui pour l'instant n'est pas du tout exprimée. Il faut quand même savoir que dans ces populations qui sont justement en lien avec d'autres, il y a un fort taux de dépression, de ce qu'on appelle le burn-out en jargon, c'est-à-dire le fait que les gens s'épuisent professionnellement dans cette relation à l'autre, dans cet apport de soutien, d'aide. Alors, ces éléments-là, dans cette nouvelle grille, sont très, très bien cotés. Parce qu'une des choses que je n'ai pas mentionnées, c'est que le fait qu'on donne, donc on juge, on estime le travail avec ces critères que j'ai mentionnés avant. Et ensuite, à chaque critère correspond un nombre de points. On donnera par exemple 10 à la formation, 8 à l'expérience, 5, etc., etc. Et c'est l'addition des points qui fait les classes de salaire. Donc là, sur à qui on donne des points et comment on les donne, ça, bien sûr, il n'y a plus rien d'objectif. D'ailleurs, les gens qui utilisent les grilles le savent bien, puisque la pondération est en général discutée de façon paritaire. Il faut qu'il y ait un certain accord entre syndicats et employeurs sur cette pondération. Alors, cette nouvelle grille propose aussi une nouvelle pondération qui fait qu'on pondérera, non seulement on tiendra plus compte de ces facteurs, mais ils auront plus de poids par rapport à d'autres, entre autres la charge physique, qui, elle, sera plutôt dévaluée. Donc ça, c'est un instrument qui existe, qui vient d'être produit, qui vient d'être édité, qui sort chez Georg, qui est large, qu'on peut s'acheter dans les librairies ou qui est diffusé dans les différents bureaux de l'égalité. Et c'est cet instrument qui servira de base pour, au moment, par exemple, si on arrive à un procès, pour faire des expertises, pour dire, oui, Madame Duchemol fait un travail équivalent à Monsieur Duchemol.
Mais c'est-à-dire qu'alors, les syndicats et les patrons, au moment des signatures de convention collective, par exemple, auront aussi cet outil, c'est-à-dire que ça devient vraiment un outil de référence pour tout le monde.
On espère. Ça, c'est le gros problème. Est-ce que cet outil sera utilisé avant ou est-ce que ce sera un outil qui sera utilisé uniquement a posteriori, au moment où les femmes disaient « Non, mais ça ne va pas, je gagne moins que mon collègue qui fait plus ou moins le même type de travail que moi ». Ça, disons, en tout cas, cet instrument existe et c'est un instrument très, très fort, on l'espère. Alors, juste pour terminer, j'aimerais juste raconter une petite anecdote sur un film qui a été produit au Canada qui s'appelle « Le sexe du salaire ». Et on voit ça commence par une jardinière d'enfants qui explique son travail. Et qui dit « Bon, ben voilà, je dois m'occuper des enfants, je dois jouer avec eux, je dois leur chanter des chansons, je dois les nettoyer parce qu'ils sont trop petits, leur apprendre un peu la propreté, leur donner à manger. Et puis quand ils ont le blues, il faut que je les cocole, etc. S'ils se disputent, il faut que je les sépare. » Donc il y a tout ce travail qu'elle explique très en détail et elle donne son salaire. Le personnage d'après, c'est un gardien de zoo qui raconte comment il s'occupe de ses animaux. Et alors, il faut qu'il lui apprenne des tours, il doit le nettoyer, il doit lui apprendre à être propre, il doit lui donner à manger. Et puis quand l'animal est triste, il doit aussi le cocoler. Donc en fait, c'est exactement le même type de travail. Et ensuite, il donne son salaire qui est un tiers supérieur à celui de la jardinière d'enfants.
Life I've always wanted, I guess I've never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thine. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are.